Grand Angle sur Radio Orient.
C'est le grand angle de ce mercredi. L'Ukraine a accepté une proposition des États-Unis pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. L'Ukraine qui se dit prête pour la paix après plus de 3 ans de guerre. Un accord de Kiev à l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne en Arabie Saoudite. C'est un revirement de la diplomatie américaine lors de ces entretiens. Et suite à l'accord de l'Ukraine, Washington a annoncé en retour, la levée immédiate de la suspension de l'aide militaire à Kiev. La Russie n'a pas participé à ces discussions. Les États-Unis doivent à présent convaincre la Russie d'accepter cette proposition. Donald Trump a déclaré qu'il allait parler à son homologue russe Vladimir Poutine sans doute cette semaine. Washington, qui il y a quelques jours avait décidé d'arrêter l'approvisionnement de l'Ukraine en matériel militaire et de ne plus partager ses renseignements. Entretien avec Frédéric Petit, député, les démocrates de la 7e circonscription des Français établis hors de France et membre de la Commission des affaires étrangères.
J'ai deux remarques à faire très importantes. D'abord, je tiens à signaler que les Ukrainiens ont préparé ce rendez-vous. C'était pas Zelensky qui était là-bas, mais l'équipe ukrainienne a préparé ce rendez-vous avec la diplomatie française et anglaise. C'est pas quelque chose qui a été crié sur les toits, mais c'est important de le dire. Parce que d'abord, je suis assez fier de la diplomatie et ça a été très bien préparé. Et le côté nous ne venons pas seuls et nous venons en professionnels de la négociation a certainement aidé la délégation ukrainienne qui a parlé d'ailleurs dans le communiqué final. Il y a un moment où il parle des Européens en se mettant dedans. Donc c'est quand même quelque chose qui est à signaler dans la préparation. Voilà, la diplomatie c'est pas uniquement du tweet et de la télévision, c'est aussi du travail et de la préparation et du respect des temps de négociation qui doivent être traités de manière professionnelle. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est évidemment ce que vous appelez une volte-face. Moi, je crois que c'est plus profond que ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énorme limite du tout transactionnel qu'on a du côté de l'administration américaine aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a plus d'encre, il n'y a plus d'axe, il n'y a plus de vision, de priorité stratégique. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. On parle d'aide militaire et de soutien militaire qui engage des dizaines de milliards. Et c'est pas des petits pains, c'est pas décider de ce qu'on va manger demain matin, c'est un énorme effort. Et là, on passe en moins d'une semaine, on passe de « je suspends » à « je ne suspends plus ». C'est pas de la volte-face, c'est quelque chose qui pourrait apparaître pas très sérieux. Et je crois que c'est lié à cette priorité transactionnelle par rapport au droit international et par rapport aux valeurs. Hein. C'est un grand mot, c'est un mot qui prend là toute sa dimension. Ça veut bien dire que des décisions parfois dramatiques qui engagent des dizaines de milliards, je pense aussi à cette autre décision qui est en train en dessous des radars, de mettre des tas de gens dans la tragédie qui est la suspension de l'USAID, de l'aide publique des États-Unis aux quatre coins de la planète. Voilà, on a l'impression que c'est des décisions qui sont prises sur un coup de tête et qui ne sont pas liées à une stratégie de long terme, à une stratégie de valeur. Et ça, c'est très 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 inquiétant de la part de ceux qu'on peut considérer encore comme nos alliés. Donc c'est inquiétant. Voilà. Donc évidemment, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle pour l'Ukraine et pour nous.
C'est un grand pas vers la paix, c'est ce que vous dites.
C'est un cessez-le-feu. On a évidemment devant nous, je dirais, deux éléphants dans la salle dont il faut parler. C'est un. Je ne vois pas comment, parce que moi je m'intéresse un peu et je suis la presse russe un peu tous les matins, le débat public interne, si on peut appeler ça un débat public interne à la Fédération de Russie, je ne vois pas comment ils répondent. Ils vont répondre positivement tel qu'on les attend, ça va être très compliqué pour eux de répondre, et puis après il va falloir le garantir. Il va falloir le garantir. Je vous signale que la première remarque c'est pas du gouvernement, mais c'est de l'espace public russe ce matin dans la presse, dans une partie de la presse russe un peu extrême, c'est de dire on peut pas accepter ça parce que de toute façon, le lendemain matin, les Américains vont le rompre, le cessez-le-feu. Voilà. On est toujours dans l'inversion de la culpabilité. Il est hors de question qu'on accepte un cessez-le-feu, puisque de toute façon, on sait bien que l'Ouest ne le respectera jamais. Voilà, c'est ça qui passe dans les manchettes de ce matin dans la Fédération de Russie. Donc, c'est quand même un peu compliqué. D'une part qu'ils acceptent, et d'autre part qu'après on puisse le faire vivre sans qu'il y ait une garantie ou un regard neutre sur place, parce que ça va être, c'est des territoires tellement compliqués. Il y a le cessez-le-feu dans le ciel, dans le front qui est une zone forcément un peu aléatoire. Je suis sûr que l'armée russe va vouloir finir deux trois trucs, peut-être réattaquer à Koursk, et puis à la mer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va le vérifier? Voilà, on a quand même deux choses devant nous qui font que c'est une bonne nouvelle en termes de... Nous sommes remis à peu près en ordre logique de marche par rapport à nos valeurs, mais c'est pas gagné de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà vers une trêve et encore moins vers la paix.
Et c'est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron a lancé hier, devant les chefs des armées de plus de 30 pays réunis à Paris, les travaux opérationnels pour passer à la planification des garanties de sécurité crédibles à apporter à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie. C'est un rôle important joué par Paris aujourd'hui.
C'est un rôle logique, c'est un rôle important, mais vous savez, c'est un rôle, c'est primus inter pares, hein, ça part, il n'y a pas un leadership comme le disent certains, ou des gens qui ne voient ça qu'à l'aune de la situation franco-française politique, que Macron reprend la main, etc. Non, je vous rappelle que dans la République française, le chef de l'État est chef des armées. Donc, il a invité des chefs des armées, donc c'était lui qui devait représenter la France. Voilà, c'est peut-être un petit peu technique à comprendre, mais c'est tout à fait logique, et c'est une réunion tout à fait logique dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, si on arrive à aller plus loin que ce cessez-le-feu, donc, mais si ce cessez-le-feu continue à avancer, et s'il y a une trêve, et s'il y a une paix, et si on commence enfin à construire une architecture, et bien évidemment, il va falloir que les forces militaires des différents pays européens soient en ordre de marche pour savoir qui y va, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, qui surveille le ciel, qui va sur place, etc. C'est important, ça. Mais c'est logique.
Et ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, cela peut avoir un impact sur l'évolution des relations entre l'Europe et les États-Unis après l'inquiétude grandissante suite aux propos précédents de Donald Trump?
Non, sans doute, c'est chez certains qui sont en apnée parce qu'on a perdu le soutien quand on avait, qui était dans l'angoisse et dans l'apnée parce qu'on avait l'impression d'avoir perdu le soutien. De mon point de vue, alors c'est un point de vue personnel, parce que ça va tellement vite que je parle en nom personnel, mais je considère que l'administration Trump est une administration transactionnelle qui va en permanence passer comme ça, virevolter, faire du cherry picking de transactions. Je fais un deal avec lui, là je le coupe avec l'autre parce que le troisième ne m'a pas dit que. Et ce qui manque là-dedans, et ce à quoi je suis assez fier de ce que montre petit à petit surtout l'Ukraine, mais également l'Union européenne, c'est cette espèce de calme, de dire écoutez, tournez, changez d'avis toutes les semaines, mais nous, on sait où on va, on n'y va pas vite, on n'est pas les plus forts, mais nous, on reste sur des choses qui sont des choses de profondes, des choses de le regard sur l'horizon, quoi. On sait où on va. Et ça, pour moi, ce revirement d'hier des États-Unis ne me rassure pas, parce que je pense que ce n'est pas le grand assagissement tout d'un coup ou le grand réveil des États-Unis. C'est une nouvelle péripétie dans quelque chose qui, à mon avis, s'annonce comme des péripéties hebdomadaires et des buzz hebdomadaires. Vous savez, j'ai parlé de l'USAID, hein, on en parle peu aujourd'hui, mais il y a des gens qui vont mourir, hein. Voilà, il y a des gens qui vont. Enfin, la suspension aussi brutale, aussi émotive de quelque chose qui est présent en coopération, en plus, en coopération avec d'autres institutions, dans l'aide aux réfugiés, dans la nourriture pour certains, c'est pour moi c'est inimaginable, c'est aussi brutal. Donc voilà, je crois que ce revirement d'hier des États-Unis n'est pas le signe que les États-Unis sont redevenus un partenaire fiable.
Frédéric Petit, député des démocrates de la 7e circonscription des Français établis hors de France et membre de la commission des affaires étrangères. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode de Grand Angle. C'était Grand Angle sur Radio Orient.